23e Festival International des Cinémas d'Asie s'est tenu à Vesoul du 7 au 14 février. Vous êtes forcément au courant parce que bah, on y était. On a mis des textes pendant toute la semaine sur le site. On a même eu un podcast spécial sur lequel on parlait surtout des films en compétition. Et voilà, on expliquait qu'on était un petit peu déçus effectivement par la compétition officielle. Cette année. Néanmoins, on voulait jeter un dernier regard à l'occasion de ce podcast sur cette édition du FICA, qui reste, malgré ce qu'on a pu en dire, le seul festival consacré au cinéma asiatique en France et notre festival, un de nos festivals préférés. Donc on a toujours beaucoup de plaisir à y aller et on a été, comme tous les ans, extrêmement bien reçus. Notamment par toi, Célia, puisque tu y travaillais cette année.
Tout à fait. J'étais donc la responsable accueil invité professionnel. Donc, je m'occupais de tous les invités, de la compétition, que ce soit fiction ou documentaire, et de tous les accrédités, donc presse ou intervenants ou personnes qui pouvaient écrire sur le cinéma asiatique. Donc, ça faisait quand même pas mal de monde, parce qu'officiellement, on avait 40... invité, mais pratiquement le double d'accrédités, donc ça faisait une bonne population à gérer.
Il y a quand même 80 accrédités à peu près.
Ouais, à peu près, tout à fait, et donc vous faisiez partie, et puis c'est surtout, et comme on est une petite équipe sur ce festival et qu'on est bénévole, on aide vraiment à tout, donc j'étais un peu sur tous les fronts, j'ai présenté des films, et puis c'est surtout, j'aidais à faire en sorte que tout tourne bien, et que pour les invités, les accrédités, ils aient tous les renseignements qu'il fallait, donc j'ai fait un petit guide exprès pour les invités, leur dire où ils allaient manger, quels étaient les films hors compétition qui étaient sous-titrés en anglais, pour qu'ils puissent profiter des autres focus, par exemple. Plein de petites choses logistiques. Et puis après, comme c'est un festival très familial avec le public vésulien, on est tout de suite attrapé par des spectateurs transis, émerveillés, choqués, bouleversés, ou qui ont envie de tailler le bougre avec vous. Donc moi, je suis pas du genre à les envoyer bouler. Donc au détour d'un couloir, on me dit « Célia, je peux vous poser une question ?» Et donc voilà, vous arrêtez pendant 10 minutes, un quart d'heure pour échanger avec le public qui a envie de partager tout simplement avec vous ce qu'ils viennent de voir, vous féliciter. Et moi, ce que je retiendrai surtout de cette édition dans cette casquette de membre de l'équipe, c'est vraiment les interactions que j'ai eues soit avec les invités, les accrédités et surtout le public qui ont été très touchés en fait par les films qu'ils ont vus. Et c'est vraiment pour moi ma récompense de cette implication lors de cette 23e édition.
Oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette accessibilité totale entre et qui fait toujours plaisir. Moi, ça fait la cinquième année du coup que je couvre le FICA, entre vous, du coup, toute l'équipe du FICA, les invités, le public qui est toujours très enthousiaste. Et voilà, encore une fois, malgré ce qu'on peut dire des films, ce qu'on en pense, il y a toujours cet aspect très familial qui fait qu'on passe toujours un bon festival.
Alors, je préviens, au FICA. Justement, les invités, je leur dis, vous allez voir, comme on est tous au même endroit. Alors, je sais que par exemple, j'ai vu des posts de certains de nos invités qui étaient assez surpris de où ça se passait. Qui,
la première fois, c'est surprenant.
Voilà, c'est très surprenant. Appelle ça boîte de conserve ou autre qualificatif, au Majestic.
Lumière, voilà. Coup, qui est un multiplex.
Tout à fait, un multiplex qui, du dehors, fait vraiment zone commerciale avec d'autres enseignes tout autour. Et donc, quand on arrive sur le site, ça peut être un choc.
Et qui, mais, généralement, passe plutôt le cercle Rings, par exemple, que des films sri lankais des années 70, on va dire.
Tout à fait.
En VF.
Et donc, je préviens que tout se passe là et que, justement, toute une organisation se fait autour de ce cinéma. Donc, c'est vrai que ça peut aussi un peu déstabiliser nos invités parce qu'ils ont tout à faire par rapport au cinéma.
C'est bon, ça, ouais.
On a installé un très joli tori grâce à une section du lycée professionnel paysage qui a fait une très très belle décoration et j'ai tenu à ce que nous faisions des photos avec les invités et puis des photos avec justement toute l'équipe du staff et des bénévoles parce que c'était tellement joli qu'on a essayé de prendre une photo qui pouvait cacher l'enseigne de sandwicherie fast-food.
Et au moins on a quand même une réduction qu'on peut voir.
Ah, je ne veux même pas le savoir. Voilà, vous mangez où vous voulez. Et je préviens aussi surtout les invités que comme tout se fait au même endroit et que tout le monde se croise et que les gens savent que les invités sont présents de la compétition fiction et documentaire, je leur dis, ne vous étonnez pas, vous allez avoir des spectateurs qui vont venir mais directement vous voir, vous poser des questions. Alors, des fois, ils ne vont même pas calculer, ils vont poser des questions en français. Donc, je disais à mes invités japonais ou coréens, eux, ils avaient leur propre interprète, donc ne paniquez pas, votre interprète est à côté. Puis d'autres qui savent tout de suite qu'il faut poser les questions en anglais, donc ils essaient. Et je leur dis, n'ayez pas peur, parce que voilà, il y en a pour qui c'est leur festival, ça fait 23 ans qu'ils viennent, et ils ont cette habitude de toujours accoster le réalisateur, le producteur, pour tout de suite leur poser des questions, parce que c'est vrai que lors des questions-réponses, c'est un peu intimidant de prendre le micro, donc ils n'osent pas en salle.
Les salles sont pleines.
Voilà.
Enfin, il faut dire que toutes les salles sont toujours pleines.
Et pour le coup, parler devant 500, 300 ou 200 personnes avec un micro a fortiori, ça peut être très stressant. Donc il y en a qui préfèrent, on va dire, guetter la sortie du réalisateur pour tout de suite l'attraper et parler avec lui. Donc je disais à mes invités, n'ayez pas peur. C'est juste après voir sous le montre emploi du temps si vous avez le temps ou pas, mais je leur ai dit, vous allez être forcément accostés, et c'est vrai qu'il y en a qui m'ont dit oui, effectivement j'ai eu des échanges avec le public dans le couloir, dans le hall d'entrée, et ça c'est chouette parce que on n'est pas canne, ça c'est sûr, on n'a pas le côté clinquant, paillettes de grands festivals, mais on a ce côté très bienveillant, très amical, très familial de ce festival qui a été très très bien perçu par les invités et qui fait que maintenant je reçois des mails ou des SMS de mes invités en me disant « mais c'est là, c'était un merveilleux souvenir, on se souviendra toujours de Vesoul ».
À ma connaissance, c'est le seul festival en France, effectivement, où il y a cette promiscuité avec les réalisateurs, les invités. Il y a peut-être le Black Movie aussi à Genève.
Mais voilà, c'est pas en France.
C'est en France. Mais du coup, en France, oui, c'est
peut-être le festival des trois continents, parce qu'il y a le Cosmopolis qui permet un lieu d'échange, qui fait aussi lieu de restauration. Donc ils peuvent y croiser. Il y a aussi le FFCP.
Pas pour les stars, mais pour les.
Pas pour les stars.
Si, on peut les croiser dans la queue, des fois ils sont là.
Oui, c'est vrai.
Si tu parles coréen, tu peux.
Ou le Pinoy qui a eu sa première édition, qui était au Club de l'Étoile. Là, pour le coup, c'était un tout petit cinéma et on pouvait tailler Bougra tout de suite avec Brillante Mentosa, par exemple. Mais effectivement.
Qu'il ne l'a pas fait, il vient 10 fois par an.
Et il était au FICA il y a 2 ans.
Voilà. Maintenant, c'est le cachet du FICA, c'est cette bienveillance, ce côté accueillant, familial. Et ce qui a aussi surtout impressionné, c'est que toute l'équipe, tous les bénévoles viennent les accueillir en gare. Donc ça, c'est ni vu ni connu d'autres festivals, c'est que vraiment tout le monde, comme on sait qu'on a une fournée de 30 invités presse qui arrivent toujours par le même train le premier jour du festival, et bien tout le monde vient. Alors on a Jean-Marc et Martine Terwan toujours sur leur 31 qui accueillent, même le train, ils savent qu'il faut qu'ils fassent un arrêt d'au moins un quart d'heure, parce que tout le monde ne va pas sortir d'un seul coup, il y a tous les photographes qui viennent, on se fait des embrassades, il y a aussi des habitués, par exemple, il y avait le président du jury Guimet, qui est un habitué, Prasanna Vitanagé, qui connaît très bien Vesoul, et tout de suite, quand il a été accueilli, c'était les grandes accolades, et l'accueil en gare a duré à peu près 30 minutes. Et le train était bloqué pendant 15 minutes.
La grande famille du cinéma.
Oui, c'était la
grande famille du FICA.
Voilà, la grande famille du FICA à Vesoul.
Alors, du coup, on est parti dimanche avec Nicolas et Elias. On a raté donc lundi, mardi, et notamment cette cérémonie de clôture. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce qui s'est passé?
Alors, c'est une clôture où on remet beaucoup de prix, et tout le monde remet, on va dire, des prix dans le sens où nous avons vraiment un axe scolaire très très important qui est initié depuis plusieurs années, et c'est véritablement une ligne de programmation très forte voulue par Madame Terwan, et qui est gérée vraiment de main de maître de sa part. C'est qu'il y a des grands partenariats avec des lycées. On veut les éduquer à l'image et ils remettent un prix. Ils remettent le prix du documentaire. Et pour eux, c'est très important, le couple Terwan et toute l'équipe, de véritablement accompagner les jeunes de la région sur une sensibilisation déjà à ce qu'est le médium de cinéma, que ce n'est pas que Rings ou Red Ding, par exemple, ou La Momie, mais c'est aussi d'autres cinématographies. C'est d'autres sensibilités, et je pense que c'est surtout ça, c'est au-delà des cinématographies, c'est leur dire, vous savez, on peut raconter des choses très violentes que vous avez dans des blockbusters, mais avec des façons totalement différentes, et que vous allez avoir des cinéastes totalement méconnus de vous, mais qui vont vous faire des récits aussi puissants et happants que des blockbusters que vous avez l'habitude de voir dans votre salle habituelle. Et puis, c'est les faire réfléchir. C'est qu'ils sont accompagnés de leurs professeurs pour remettre ce prix. Donc, il y a une partie d'analyse, de réflexion. Et donc, c'est pas pour rien. On a en fait un prix du public documentaire. Mais en parallèle, on a effectivement un prix du jury jeune qui va primer un documentaire. Et par exemple, dans le palmarès de la cérémonie de clôture, le prix du jury jeune a été remis au Cri interdit de Marjolaine Grappe et Christophe Barrère, qui parlaient en fait de la politique de contrôle des naissances. Et c'est moi qui ai reçu le prix en l'absence de Marjolaine, parce qu'elle ne pouvait être des nôtres. Donc je vais la lui remettre dès que je vais voir. Et pour le coup, ils ont été très surprenants en fait. Dans tous les Q&A que j'ai assisté ou que j'ai enregistré, ils posent des questions qui sont désarmantes, qui sont pertinentes, qui font sourire les réalisateurs, parce qu'ils ne s'y attendent pas, tout simplement, de se dire, mais ce petit jeune de 17 ans, 14 ans, tout de suite, soit il a compris. Et ça, par exemple, aussi pour le prix du public documentaire, c'est Asil Raïs qui l'a eu pour Un intouchable parmi les morts. Il me disait, mais j'ai été épatée, en fait. Il y a eu beaucoup de jeunes qui se sont exprimés pendant questions et réponses et qui m'ont posé des questions absolument incroyables. Et il a adoré cet échange. Et c'est ça aussi la force du FICA, c'est d'initier au-delà des publics habituels qu'on pourrait avoir lors des questions et réponses, et dans le public tout court, des jeunes sensibilités, des personnes qui se forment le regard, qui se forment la réflexion. Et ça, c'est un des points forts du festival, c'est que là, par exemple, le jury jeune était composé de 70 lycéens, ce qui n'est pas rien, puisque l'année précédente, c'était 50. Donc c'est voir l'intérêt grandissant, croissant. Et quand j'entends les petites jeunes qui représentent ces jurys s'exprimer lors des cérémonies, elles décrivent à quel point elles sont fières, elles adorent participer, elles adorent présider le jury, et que, par exemple, il y a aussi des membres de l'équipe du FICA qui viennent du jury jeune. Donc, depuis petit, on va dire entre guillemets, ils accompagnent le festival, ils aiment ce festival. Et par exemple, un de mes collègues, Pierre, était un des membres du jury jeune, et j'ai eu un choc. Là, je me suis sentie vieille, il m'a dit qu'il avait 19 ans. Et il travaille pour le festival, mais il a été membre du jury, et c'est un festival qu'il adore et qu'il accompagne.
Il y a des membres de l'équipe qui ne sont pas beaucoup plus vieux.
Voilà. Mais pour le coup, moi, ça me touche, parce que où j'avais une stagiaire, ça faisait 10 ans qu'elle suivait le FICA, qu'elle était membre du jeune jeune, et puis elle m'a dit j'ai 22 ans. Et puis là, pareil, j'ai eu un choc parce que je croyais qu'elle avait que 18 ans.
Ah, d'accord, quoi. C'est choquant.
Mais ça me touche de voir que ces jeunes pousses ont aimé ce festival. Tous les jours, je leur demandais bah, qu'est-ce que vous avez vu comme film, et elles me racontaient bah, j'ai vu un tel, oh, j'ai pas trop aimé. Et en fait, moi, ça me fait plaisir de partager ces moments-là. Même si on est un peu dans le rush du boulot, parce que elle me dit bah voilà, j'ai vu tel film, j'ai adoré ça, pas ça et tout. Et ça, c'est vraiment l'un des atouts du festival, c'est de susciter la réflexion, la discussion. Et les invités ont été très touchés par ça, et les prix de deux commentaires reflètent ces réflexions, c'est des problématiques. Alors, moi, c'est ce que je disais au fondateur du festival et à Bastien Merson, c'est que, en général, la sélection du FICA, elle est quand même un peu lourde. C'est des sujets vraiment denses, complexes, on rigole pas tout le temps, c'est toujours des sujets sociaux, politiques, c'est toujours assez engagé, mais je pense que c'est aussi utile de leur montrer que ces œuvres existent à ces jeunes, et ils y sont sensibles, et ils arrivent à comprendre, et s'ils comprennent pas, ils posent les questions, et ces prix ne sont pas anodins, c'est qu'ils montrent leur intérêt, leur réflexion, et leur questionnement par rapport à d'autres cultures, d'autres politiques, où ils disent, mais comment on peut faire ça à des gens? Et par exemple, un intouchable parmi les morts a vraiment bouleversé les gens, parce qu'on voit vraiment des vrais cadavres à l'écran, où on voit en fait cet homme qui a plus de 35 000 cadavres qu'il a ramassés, enveloppés, et dont il a pris soin. À un moment donné, il évoque, et ça prend au trip, il dit, et ça faisait 4 jours qu'il était en train de se décomposer, et ses membres me tombaient des mains. Moi, j'imagine, alors on voit pas l'image, mais moi j'imaginais à quoi ça ressemblait, et je me suis dit, ok, je comprends mieux quand Asil Raïs raconte que pendant 2 jours non-stop, il a pas arrêté de vomir, parce que ce qu'il avait vu et senti, c'était irracontable, même à l'image, même si on voit ce choc du cadavre dans la rue, ça ne transparaît pas tout, et un petit jeune a dit à un moment donné, mais c'est pas un risque de filmer ce genre de choses, parce que vous vous rendez bien compte que vous avez montré ça à l'image, et votre responsabilité, quand vous racontez ça, nous, on est jeunes, comment on doit le prendre? Et tout de suite, tu sens que le gamin, il est bouleversé, et il a besoin d'être un peu accompagné, et puis en plus, Asil Raïs, c'est une très belle personne humainement, et il a essayé d'expliquer la démarche de comment il avait voulu filmer, et on le voit à un moment donné, il filme cette femme qui est décédée, et qui est enveloppée délicatement dans son sari et qui est amenée dans la petite fourgonnette. Il dit, je voulais vous montrer ça, vous montrer à quel point cet homme est d'une très grande humanité, et c'est très rare de rencontrer un véritable être humain. Et ça, je trouve ça incroyable de dire ça à un môme qui va voir des tas de films où on voit des guns, des revolvers, enfin moi ça me choque maintenant. Toutes les affiches maintenant, c'est qu'avec des flingues et tout ça, et la mort est complètement dématérialisée, complètement irréelle. Et là, ils ont vu ce que c'était réellement, et comment un homme ordinaire de tous les jours pouvait gérer ça sans être blasé. Ça, j'en ai beaucoup discuté avec le réalisateur, je trouvais qu'il y avait un bel équilibre entre un homme qui ne paraissait pas blasé après 35 000 cadavres, et qui en même temps se sentait toujours investi de cette mission, et qui avait même la fierté, la reconnaissance et le respect de son fils et de sa femme, ce qui n'est pas évident. Et ça, pour le coup, les jeunes ont vraiment perçu ces aspérités très singulières de ce qu'ils ont vu à l'écran, et pour moi, c'était le rare moment que j'ai pu passer en salle, c'était un vrai bonheur à partager avec le public et les invités.
Alors, quels étaient les autres films qui ont été primés lors de ce palmarès?
Alors, plein d'autres films. Alors, il y en a eu pour tous les goûts. Ça m'a même fait sourire parce que j'étais aussi sur scène. Et vraiment, le plancher du plateau ne suffisait pas. Donc le prix
du public... Et c'est une grande salle.
Et c'est une grande salle, le théâtre Edwige Feuillère, qui est une grande figure du théâtre de Vesoul. Donc, le prix du public du film documentaire était pour Un intouchable parmi les morts de Asil Raïs, d'Inde. Nous avons eu 2 prix pour le film Dark Queen de Hussein Hassan, dont le scénariste Mehmet Aktaş et son producteur Sally Arif Sally étaient présents, et donc ont pu partager avec le public lors des présentations des Q&A. Donc ils ont eu le prix du public du film de fiction, et ils ont eu le prix du jury lycéen. Donc c'est pas rien, ils ont, je pense, été touchés, alors peut-être soit par l'aspect plus documentaire du film, ou peut-être l'aspect plus fictionnel. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, sur, on va dire, la qualité de la mise en scène. Moi, je sais que j'avais pas été très touchée par l'aspect fictionnel du couple, j'avais été plus touchée par l'aspect documentaire.
C'est un film qui avait été découvert ou...
Oui, je l'avais vu en film de clôture à Poussin. Je m'en souviens d'autant plus que, comme c'était en plein air et qu'il faisait un peu froid, j'avais un peu lutté contre le froid environnant. Voilà, c'était le The Dark Cold Wind. Nous avons aussi, dans la section du prix INALCO, deux prix. Alors, le jury était constitué cette année de 4 personnes de l'école INALCO, qui promeut plus de 130 langues du continent asiatique. Donc il y avait Pascal Trimba, Camille Andronic, Hassan Khan et Astrid Vassé. Et ils ont remis donc le coup de cœur à 500 mètres, 800 mètres de Yao Tian, qui a été un film très très remarqué pendant cette édition, parce que ce sont des petits détails qui ne sont pas connus de la législation chinoise, qui ont été mis en exergue sur la politique de l'enfant unique. Selon que vous habitez en ville ou en campagne, ça peut changer.
Ça a été un des films qu'on a défendu.
Tout à fait.
Donc cette année, sur le planning familial à la fin des années 90 dans la région des Trois-Gorges.
Tout à fait.
Donc oui, c'est un prix...
Tout à fait, donc vraiment un coup de cœur de la part de ces quatre personnes. Et le prix INALCO, Emma Mover de Ririza d'Indonésie. Là, pour le coup, je ne peux pas vous dire le film parce que je ne l'ai pas vu, mais le réalisateur, qui est aussi un habitué du festival, a été très touché par ce prix et était mon voisin de plateau lors de la cérémonie de clôture. Nous avons aussi d'autres prix qui ont été attribués. Alors pareil, il y a eu un petit doublé. Pour le jury Guimet, il y avait 3 personnes, dont M. Prasanna Vitanagé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un réalisateur sri-lankais. Je pense que parmi mes invités, c'est l'une des personnes qui m'est le plus touchée, que j'admire le plus, et d'une gentillesse, d'une chaleur. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'est pas un grand homme par la taille, mais c'est un grand homme, mais vraiment par ses qualités, d'une grande, grande sensibilité, d'une très grande gentillesse et d'une très grande bienveillance aussi avec nous. Il était accompagné de Shana Goswami, qui est actrice indienne, qui a été aussi invitée l'année dernière et dont le film Under Construction avait été primé, donc elle connaît bien aussi le FICA. Et la troisième personne, qui est aussi très bien connue du FICA en tant que membre de l'équipe, mais aussi du public, c'est Wafa Germani, qui est spécialiste du cinéma taïwanais. Et donc, ils ont remis, parce que leur cœur balançait, donc coup de cœur, Going the Distance, de Harumoto Yujiro, japonais. Donc, vraiment un film sur deux amis qui leur avaient beaucoup, beaucoup plu. Et quand on a fait la remise des prix à Monsieur Harumoto, c'était très touchant parce qu'il a eu des réactions mais tellement spontanées à chaque fois qu'on l'appelait, mais assez drôles parce qu'il ne s'y attendait pas. Il ne venait vraiment pas pour recevoir des prix, mais au moins vivre sa première expérience du FICA. Et si je peux me permettre un aparté, le 14, qui était donc jour de cérémonie de clôture, était la Saint-Valentin. Et il avait raconté au déjeuner qu'il voulait se fiancer avec sa copine et que sa future belle-mère n'approuvait pas du tout et qu'il était hors de question qu'elle donne sa bénédiction parce que c'était qu'un pauvre réalisateur qui n'allait jamais percer, jamais réussir. Mais quand elle a su qu'il avait été sectionné notamment au FICA, tout de suite, elle a complètement changé d'avis. Et alors, ce qui était très, très drôle, c'est qu'à chaque fois que je le voyais sur scène à recevoir un prix, j'essayais de lui dire en anglais, bah alors ça y est, maintenant la belle-mère, vous l'avez dans la poche.
Du coup, on peut lire son interview sur le site actuellement, et c'est vraiment quelqu'un d'adorable pour... Enfin, voilà, il racontait par exemple qu'il avait une fascination quand il était plus jeune pour l'animation et qu'il voulait absolument devenir réalisateur de films d'animation. Ouais. Comme Miyazaki et tous ces réalisateurs qu'il admirait. Du coup, il a postulé pour une école de cinéma. une des plus prestigieuses au Japon. Et c'est une fois qu'il a été admis qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de département animation.
Donc, il devait, c'est cette candeur-là.
Faire un cinéma classique. Voilà. Et c'est vrai qu'il a ce côté très un peu naïf, très sympa,
candide,
très immédiat.
Et pour passer au cinéma d'animation plus tard, en regardant de Iwai Fungi, voilà, après 15 ans de...
Bah du coup oui, pour l'instant il a encore un film qui est en préparation, un deuxième projet qui porte depuis quelques temps, et peut-être qu'un jour comme il pourra repasser
Mais oui, aussi une très jolie personne, très tendre, très ingénue et donc hyper rafraîchissant, ça faisait vraiment plaisir de la voir. Et le prix Émile Guimet, alors Baby Bisami de Sam Taekyong, qui était aussi un de nos invités de Corée et que j'avais vu dans la nouvelle section du festival de Busan en octobre dernier, c'était un de mes films préférés parce que comme je le disais au réalisateur, il avait vraiment choisi un acteur qui avait vraiment un côté photogénique très hypnotique déjà à l'image, qui renforçait vraiment sa présence à l'écran, et il a voulu démonter en fait tous les codes de la société confucianiste actuelle en disant bah voilà, une mère se barre, maintenant c'est un jeune homme qui pensait que faire des fêtes et des soirées bières avec ses potes, qui va devoir s'occuper d'un bébé qui n'est pas le sien. Et donc ce joli film qui moi m'avait touchée particulièrement, j'ai été très contente de voir qu'il a été primé par le jury Guimet. Une surprise pour moi, c'est le jury presse qui était cette année composé alors les hardcore cinéphiles de tout le festival, Lucien Logette, directeur de Jeune Cinéma, et Laurent Gallard de Sens Critique, ont été mais vraiment les spectateurs les plus assidus du festival. Ils m'ont impressionné, limite s'ils ne mangeaient pas pour pouvoir faire le maximum de projections. Ils ont été rejoints par Yves Montmeilleur, que tout le monde connaît très très bien, participant souvent au contenu d'Arte. Voilà, exactement. Et donc, ils ont remis leur prix de la critique à Hotel Salvation de Shubhashish Bhutiani, dont le père est très 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 connu, et dont le film a apparemment quand même touché aussi beaucoup de gens dans le public, dans ce parcours de ce grand-père face à face avec sa famille. Et je ne pensais pas que ce film allait autant toucher, mais il a gagné un prix. Voilà. Nous avons le prix NETPAC, qui est en fait le prix remis pour la promotion du cinéma asiatique à travers le monde. Donc tous les grands festivals dont fait partie le FICA a ce prix NETPAC, qui a été représenté cette année par un joli florilège de personnes. Donc du Kyrgyzstan, nous avions la présidente Gulbara Tolomouchova, très très gentille personne qui m'a beaucoup touchée aussi et qui écrit vraiment des critiques très très fines et très subtiles, qui est spécialiste du cinéma kirghize. Il y avait aussi notre invitée d'honneur qui a reçu un cyclo d'honneur, qui est Swarna Malawarachi, qui est la Catherine Deneuve du cinéma sri lankais et qui est aussi avec une très grande personnalité et un très fort caractère. Donc elle était pétulante.
Avec de The Hunt.
Voilà, exactement. Et aussi l'un des représentants de la promotion du cinéma asiatique via son festival, qui s'appelle Five Flavors de Varsovie, en Pologne. C'est Jakub Krolikowski qui en est le directeur. Et ils ont choisi en fait de remettre leur prix NETPAC cette année aussi à Going the Distance de Harumoto Yujiro. Donc pareil, grand second saut de joie de Harumoto sur scène, n'y croyant pas, en disant mais je rêve. Donc c'était très drôle à voir. Nous avions aussi donc nos prix tant attendus du jury international, qui était composé cette année de la grande réalisatrice Rakhshan Bani-Etemad d'Iran, très forte personnalité et qui a rayonné aussi via son cyclo d'honneur qui a été remis pendant la cérémonie d'ouverture. Elle était accompagnée de Byamba Surendava, réalisatrice mongole que vous connaissez bien aussi pour ses productions qui nous sont parvenues. Nous avions aussi la réalisatrice géorgienne Rusudang Konya, et aussi une très grande figure du cinéma sri lankais, le jeune réalisateur Vimukti Jayasundara, qui a aussi fait quelques années en France, donc il parle un peu français, et qui était à l'école du Frénois. Donc, la spécificité du jury international, c'est qu'ils peuvent remettre plusieurs prix. Donc, il y en avait trois cette année. La mention spéciale du jury international, et ça, je l'ai découvert, parce que je ne savais pas qu'on pouvait ne pas le remettre à un film, mais à quelqu'un. Et là, ils l'ont attribué à Hiromi Hakogi dans Her Mover de Sato Yoshinori, qui est un plaidoyer contre la peine de mort. Il y a eu aussi le prix du jury international, remis pour la troisième fois à Going the Distance, donc là, triple saut de bonheur de Harumoto sur scène, qui n'avait plus assez de bras pour garder tous ses petits tableaux, donc c'était assez drôle à voir.
Et mariage assuré. Donc.
Et mariage assuré. Grand prix du jury international, Being Born de Mohsen Abdolwahab. Alors là, pareil, c'est un film dont je ne pourrais malheureusement pas parler parce que je ne l'ai pas vu, qui nous vient d'Iran. Et le Cycle d'or pour couronner le tout, qui a été remis pour la deuxième fois au film chinois de Yao Tian, 500 mètres, 800 mètres. Et pareil, on voyait que le réalisateur était assez étonné et que c'était vraiment une très grande surprise de remporter deux prix dans cette sélection. Donc très touché. Son assistant interprète, Harry, qui est aussi une très gentille personne, m'a fait tellement rire parce que pareil, très sensible, très joyeux, très ingénu. Donc il était mon interprète pour Yao Tian. Donc vraiment beaucoup de fraîcheur et ça a été vraiment des jolis moments d'accompagner ces personnes-là et ils ont vraiment très très apprécié ce séjour à Vesoul et très honorés d'avoir eu deux prix dont le Cycle d'or, la récompense ultime du FICA.
Alors du coup on va clore cette parenthèse sur le FICA avec deux choses. Il y a eu deux premières, on va dire, au FICA, notamment des avant-premières. Cette année, je crois que c'est la première fois que le festival présentait une sélection d'avant-premières, donc de sorties en salle, et notamment plusieurs films coréens.
Tout à fait. Alors en fait, nous avons eu trois films. Nous avons Madame B, dont on reparlera un petit peu plus tard, mais il y avait surtout deux films que j'ai présentés et que ça me tenait à cœur de présenter. Il y avait The Bacchus Lady, qui sera bientôt en salle, qui a fait un carton plein. Et alors là, ça m'a complètement surprise parce qu'il y avait deux projections programmées. Il a fallu qu'on en reprogramme une le lundi suivant.
Là, c'est en avril, hein, qu'il sort. On a une date de sortie
précise il me semble que c'est au mois de juin.
C'est au mois de juin,
d'accord. C'est au mois de juin.
Déjà, au FSCP, c'était blindé.
Ouais. Il n'y avait qu'une seule séance au FSCP. Et là, on a dû en faire trois. Parce que les deux premières affichées complets... Alors, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cet engouement. Certainement, plusieurs thématiques qui ont pu plaire au public du FICA. Non seulement comment on gère les personnes âgées et qui sont complètement délaissées, il y a aussi ce phénomène explosion de femmes âgées qui se prostituent et dont j'ai beaucoup parlé pendant les présentations. Et c'est pas anodin que ce film s'appelle Bacchus Lady parce que c'est le nom des petites fioles revigorantes de virilité masculine. Donc ça a fait beaucoup rire le public parce qu'ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Donc je leur ai expliqué à quoi ça servait et que lorsqu'on avait fait justement un reportage audio pour France Culture au mois de novembre, on avait vraiment appuyé sur ce point où on découvrait qu'il y avait de plus en plus de femmes âgées et ça a tout de suite été un élément qui a interrogé en fait le public en se disant mais comment on peut laisser faire ça. Et c'est ce que je leur posais comme question lors des présentations, c'est qu'est-ce que ça dit d'un pays quand on laisse ses grand-mères se prostituer pour se sortir, sauver leur dignité sociale, leur dignité morale. Et surtout l'accompagnement de fin de vie, le suicide ou une extinction suicide assistée. Donc je leur en parlais pas trop en présentation pour pas trop déflorer les différents tabous. Et ça m'avait beaucoup plu et beaucoup ému quand le public est venu me voir après, à chaque fin de ces séances, pour me poser des questions et me demander « Mais Célia, mais comment ça se fait ? Et puis pourquoi ?» Alors moi je leur disais « C'est surtout un grand risque parce que l'actrice... qui joue, c'est quand même une actrice emblématique du cinéma coréen. Elle a percé, explosé dans La femme insecte de Kim Ki-young dans les années 70. C'était vraiment la Brigitte Bardot du cinéma coréen. Et d'être mal maquillée, de montrer à quel point elle pouvait être vieille, je leur ai dit, voilà, vous avez un visage dans lequel vous pouvez peut-être vous reconnaître et vous familiariser à cette histoire, mais rendez-vous compte que nous en France, eh ben, on a quand même des structures, on a quand même des aides, même s'il y a des personnes en grande détresse ou qui n'ont pas de famille pour les soutenir, nous en France on a quand même on a quand même du soutien, et ça les a beaucoup touchés. Et je pense que c'est ça qui a fait carton plein, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à avoir de telles thématiques méconnue à l'écran.
Elvire, sur
FFCP. Est-ce que le fait qu'il y ait eu des très bons échos aussi au FFCP, en fait...
Je pense pas que ce soit des...
Non, mais pas forcément suivre l'actualité d'un festival, mais un écho peut se répandre parfois un
alors
petit
peut-être,
peu...
Et sur
Istasia. Oui, voilà, mais évidemment.
Je pense que plus Istasia que le FFCP... Parce que FFCP, c'est vraiment connu par les purs fans de films.
Donc c'est très parisien.
Voilà, c'est très parisien. Mais je pense que Istasia étant partenaire média depuis longtemps, il y en a peut-être qui ont commencé à prendre l'habitude à lire les contenus. Mais je pense qu'ils sont venus parce que dans le descriptif,
en fait.
Voilà, c'est plutôt l'histoire. Après, moi, j'ai accentué plus sur l'aspect sociétal que ça revêtait. Et la troisième, c'était parce qu'on avait par chance un créneau de libre et on s'est dit, tiens, on va le programmer. Alors, on ne s'attendait pas qu'à 9h45, il y ait des gens qui viennent. Mais il y a eu des personnes un lundi matin à 9h45 se présenter pour voir Bacchus Lady. Donc pour moi, c'est un signal fort pour le distributeur qui va avoir le courage de le sortir cet été. De lui dire, y a quand même des gens que ça intéresse, qui se déplacent. Je sais pas s'il y en aura.
Et surtout à Vesoul, parce que c'est pas évident, effectivement, de sortir un film comme Bacchus Lady à Vesoul. C'est même pas. Enfin, probable qu'il n'y ait pas de copie en région. Et c'est pour ça que c'est aussi important que le FFCP. Alors on se demandait pourquoi il y avait des projections Japanimation, notamment de Your Name. Aussi tout simplement parce que Your Name n'est pas forcément sorti
tout à fait.
À Vesoul, au cinéma Majestic
Lumière,
et donc ça a permis à un autre public, enfin au public de la région,
tout à fait. Là pour le coup, c'était un très très beau film à voir. Et pareil pour Tunnel, c'est un film de genre, un film catastrophe qui était plus soi-disant adressé à un public jeune parce qu'on l'a brandé Soirée Frisson. Le vendredi et le samedi.
C'est la fiesta. Attention.
Non. Et en fait, très étonnamment, quand je présentais le film, il n'y avait pas tant que ça de jeunes. Plus la deuxième soirée. Mais la première soirée, c'était vraiment un peu tous les âges. Après, moi, ce qui me tenait à cœur, pour ceux qui connaissent un peu le cinéma coréen ou l'actualité coréenne, c'est que je leur disais, ça n'a rien à voir avec le malheureux naufrage du Sewol. Beaucoup le raccrochent. Et que je leur disais que ce film est d'abord adapté d'un livre qui a été écrit en 2013, donc un an avant le naufrage, d'un écrivain très très connu, So Jae-won, dont... un de ses bouquins a été aussi adapté pour Hope, un film que il me semble vous avez beaucoup aimé, qui a fait beaucoup pleurer. Mais voilà, il n'en est pas à sa première adaptation en film et il a voulu parler justement, alors c'est un titre éponyme, hein, ça s'appelle aussi Tunnel, mais de montrer à quel point la société coréenne est tellement cannibalisée par ses malversations d'argent, ses emprises politiques et que le Pékin moyen est au milieu de tout ça. Et pareil, le public a été très réceptif parce que ils ont aimé l'aspect genre film catastrophe. En plus, ils connaissaient plutôt bien Bae-Doona, qui est maintenant une figure très reconnue, surtout s'ils ont vu la série Sunset, etc. Donc ils arrivent à la reconnaître tout de suite et ils l'aiment beaucoup. Moins Ha, qui est bizarrement moins connu pour eux, donc je leur ai dit que c'était l'acteur qu'ils avaient vu récemment peut-être dans Mademoiselle, etc. Mais pareil,
il y a moins de films internationaux.
Il y a moins de films internationaux et surtout les films coréens qui sortent avec lui en France, il n'y en a pas beaucoup et surtout qui ne viennent pas jusqu'à Vesoul.
Il y en a pas mal, mais est-ce qu'ils arrivent à Vesoul ?
Voilà, c'est ça l'histoire.
C'est pas Paris, Vesoul.
Donc c'est pour ça que j'ai plus parlé de Bedouna.
Oui, c'est sûr, mais les films s'y sortent
bien. En France, on est bien là. C'est
pas grave, Bad Jungwood toujours dans nos cœurs.
Et ils ont apprécié et ça nous a permis la deuxième projection de Tonal d'essayer de rapatrier un public jeune pour le focus Japon se met à table pour une projection cachée du film d'Etsushi.
Voire pirate, mais pas tellement.
Pirate, hein, qui était une initiative de Bassel Merson assez inédite. On ne savait pas ce que ça allait donner, mais on a accueilli à la Bambouseraie des cinéphiles purs et durs de cinéma de genre, et c'était une soirée très très drôle. Mais tu peux nous la raconter aussi, Victor, hein, parce que tu l'as co-organisée avec
Bastien. Oui, tout à fait. Bah oui, comme je suis aussi éditeur pour Elephant Film, qui est responsable de la sortie du film en DVD et Blu-ray. Donc voilà, c'était une idée, effectivement, j'en avais parlé avec Bastien un peu avant, en lui disant dans le focus de Japon se met à table, il n'y a pas des sushis. Et donc voilà, il m'avait fait la...
Tu penses directement à des sushis quand on te parle du Japon.
Je lui ai dit, le Japon se fait à table, Ozu c'est très bien, le Ropa c'est très bien, ton Popo c'est très bien, mais il manque l'animé Le Petit Chef, du coup alors ça c'était plus difficile de le programmer, et il manque des sushis.
Il y en a un autre qui manque aussi, c'est la cantine de Mimi. Voilà.
Tout à fait.
Surtout que le manga vient de sortir aux éditions du Lézard Noir, donc voilà, il faut quand même se soutenir. C'est une très belle édition et c'est un manga qui est vraiment très populaire au Japon, vraiment depuis pas mal de temps, et qui a été adapté au cinéma. Ils ont fait deux films. Le deuxième est sorti en décembre dernier au Japon et il a eu pas mal de succès. Le premier a été distribué en France dans le cadre du festival Kinotayo, il a été présenté il y a 2 ans.
Oui.
Et le film est adapté donc en drama aussi depuis 2009, il me semble, au Japon.
Il est disponible sur Netflix d'ailleurs aussi.
Voilà, et les Coréens viennent de l'adapter en drama aussi depuis 1 an. Donc voilà.
Et donc du coup, comme c'était un peu, on va dire, compliqué de compléter le raffinement de la sélection de Bastian. Sur le Japon se met à table avec des sushis, il a eu cette idée donc d'organiser à la Bambouseraie une projo pirate. Ça n'a pas été annoncé, donc il n'y avait pas vraiment d'informations, sauf quelques petits bruits de couloir pendant le festival qui bruissait. Et donc voilà, un écran a été mis en place. Il y a eu une dégustation de sushis et surtout de saké nécessaire pour apprécier le film.
Le principe, c'était que à chaque fois qu'un sushi tuait un humain, il fallait se ruer sur un sushi pour, on va dire, lui l'oxyre, lui jeter de sort.
C'est plus sain que se jeter sur un verre de saké, parce que ça peut mal se finir en fin de soirée, vu le nombre de sushi qui attaquent.
Avec Elias et moi, Nicolas était un peu plus loin, mais on était plutôt à côté du saké, du coup, pas très loin de la table. Et du coup, oui, il y avait quand même une bonne quarantaine de personnes.
Une bonne quarantaine. Après, c'était pas simple parce que c'était minuit et demi passé. Voilà. Qu'on voulait attendre la fin de la projection de Tonal pour ramener le maximum de jeunes que ça pourrait intéresser. Mais au final, ouais, on était un bon petit nombre au début. Et c'est vrai que le public a été, pour ceux qui connaissaient pas, assez consterné.
Consterné quand même.
Amusé, mais je pense qu'il y en a qui ont été consternés quand même.
Voilà. Et je rajouterais que ça reste quand même, et à le revoir, moi je l'avais découvert il y a 2012 ou 2013 au Black Movie. Du coup, c'était Spoutnik qui l'avait été. Et il avait été diffusé, oui, une nuit, il y avait une nuit Sushi Typhoon à l'étrange festival. Du coup, après, j'avais travaillé dessus et effectivement, c'était bien amusé. Les sous-titres sont un peu.
Autant le film est consternant d'idiotie, de gags, etc., pour qui peut ça plaire, mais moi j'ai beaucoup aimé, mais j'admets vraiment un excellent bon point, c'est la qualité des sous-titrages. Franchement, là, je l'ai redit à Bastian, j'ai dit les idiomes, les expressions.
C'est bien parce qu'ils semblaient consternés sur certaines expressions.
Voilà,
Bastian,
voilà. Voilà. Mais j'ai trouvé que les sous-titrages étaient super bien faits pour le coup. Ça sauvait le film.
Et le film, du coup, est super drôle quand tu bois avec des amis.
Oui, c'est ça. Ouais, voilà. En fait, c'est ça qu'il faut le voir. Il faut le voir dans ce contexte.
C'est un des meilleurs films d'Higuchi parce qu'il a quand même un peu de moyens à ce moment-là. Moi, j'adore aussi Karate Robos à Borgard. Qui est vraiment touchant dans son hommage donc au film de super-héros.
J'ai une grande admiration pour Zombillas.
Non, j'allais te dire, personne ne parle de Zombillas quand même.
Bon, on a tous son petit.
J'ai vu, comment dire, dans un cas particulier, c'est Panic Cinéma. Voilà, on a picolé pas mal avant, on est arrivé, on était cuits, on a vu le truc. Voilà.
Ah, c'est comme ça qu'il faut les voir.
Voilà. Moi, je regarde les Higuchi comme des Bergman.
C'est chaud.
Ça, c'était pas possible.
Ah oui, de toute façon, c'est les délires scatologiques de Higuchi, c'est quelque chose.
Et moi, pour le coup, ça reste vraiment.
C'est un très très bon moment.
Très bon souvenir et un bon moment.
Moi, j'essaie de pas trop voir parce que je reconduisais. Les gens après cette soirée, et vu qu'il était très tard, je faisais attention, donc j'ai bu vraiment un tout petit fond de saké au moins pour goûter. Mais non, c'était une très très chouette soirée, c'est juste que c'est pas un film que je recommanderais en temps normal, on va dire, entre guillemets. Mais c'est vraiment un film à se faire dans ce genre de contexte de soirée, un petit peu alternative, bonne franquette et bien arrosée. Ouais.
Et alors pour conclure, si je devais garder un souvenir marquant de cette édition du 23e FICA, ce serait quoi?
Mon côté un peu marâtre avec les invités, parce que je voulais au moins, on avait notre photographe officiel, Fred Ambroisine, qui venait chargé comme un mulet pour faire des photos et des belles vidéos, et je voulais des très beaux souvenirs de cette 23e édition. Et on a eu un coup de chance, c'est qu'on a eu un soleil magnifique et un déjeuner. Je crois que j'ai fichu un bazar pas possible. Je les ai un peu tous stressés. J'aurais dit, il fait beau, il y a un rayon de soleil, on sort tous au Tori et on va faire une grande photo avec tous les invités. Alors, c'était pas tout à fait prévu parce qu'au départ, il arrêtait pas de pleuvoir le début du séjour. Mais je m'étais dit, un si joli Tori, ce serait dommage. Et ce midi-là, j'avais pratiquement tous mes invités sous la main. Et je me suis dit, c'est pas grave. Ah, c'était en fait le dimanche, lors du déjeuner de la cinéphilie, qui est tout le temps organisé, qui permet aux invités, aux membres de l'équipe, et surtout au public, de pouvoir se rencontrer autour du déjeuner. Et je les ai un petit peu pressés à la fin, au café, avant que la séance de 14h commence. Je leur ai dit, non, là, il fait trop beau, ce serait trop dommage, faisons une photo. Alors, ça a été un grand bazar. J'ai dû demander à toute l'équipe de les prendre par les bras et dire, allez, on les emmène. Donc, les invités ont été un peu surpris. Mais malgré cette petite organisation improvisée, et ben, ils sont tous contents parce qu'on a des belles photos souvenirs grâce à Fred et d'autres photographes de ce moment où tout le monde rigole. Bon, c'est un peu agité. C'est en fait un peu à l'image de cette édition. Les gens étaient, on va dire, bon enfants, ont vraiment passé des bons moments. Et moi qui n'ai pas vu beaucoup de films, ça a été un peu ma récompense, c'est de me dire, bon ben voilà, j'ai des jolis souvenirs en photo et vidéo de mes invités, et puis ben voilà, je pourrais le mettre au-dessus de mon lit. Et sinon, j'ai un deuxième très très bon souvenir, hormis cette histoire de photos de groupe sur le Tori, c'est lors du Focus géorgien, on a eu en fait le couple de Grenade, Théona et Thierry, qui sont venus présenter notre enfance à Tbilissi. Et ça a été très touchant parce que j'ai pas assisté en fait à la projection, mais ils m'ont raconté, ainsi que des spectateurs, comment avait été leur projection. Beaucoup ont témoigné lors du question-réponse et ça a été vraiment un moment fort et très bouleversant. Mais ce pourquoi je voulais remettre dans mes meilleurs souvenirs, c'est parce que c'est l'une des rares fois où j'ai deux réalisateurs qui veulent remercier en fait leur projectionniste, car ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais vu leur film aussi beau sur grand écran et en salle, qu'il n'y avait jamais eu la plus belle photo, la plus belle couleur et le plus beau son lors d'une projection, et qu'ils ont vu leur film vraiment dans les meilleures conditions. Et ils tenaient à féliciter le projectionniste, qui en l'occurrence lors du FICA était Xavier Pichonnat. Et c'est vrai que les personnes qui ont été embauchées pour cette édition et les précédentes, ce sont des personnes qui travaillent exclusivement en festival, donc qui connaissent les conditions, qui savent comment c'est, le stress, etc., les attentes. Et ils apportent vraiment un soin et je voulais vraiment remettre à l'exergue leur boulot parce qu'ils arrivent en bout de chaîne et toujours on remercie les techniciens du film. On dit voilà, le chef de la photo, le monteur, le cadreur, etc., l'assistant. Mais on oublie assez régulièrement les projectionnistes et ça, ça a été un très beau moment. Un beau moment de partage d'équipe parce que tout de suite on l'a partagé avec Xavier en disant bah voilà, le couple Grenade a été mais absolument émerveillé du travail que tu as fait pendant leur projection. Il a été très touché parce que déjà il s'y attendait pas et puis deuxièmement ça mettait vraiment à l'honneur ce qu'il faisait et même si on le voit jamais, même si on n'en parle jamais et on le remercie jamais, c'est toujours touchant de voir qu'on pense à cette personne en bout de chaîne qui est là pour valoriser en fait chaque travail justement de tous les techniciens qui ont collaboré et que justement si un film s'apprécie en salle et c'est ce qui fait le bonheur d'aller en salle et d'aller en festival, c'est de voir quelqu'un qui va mettre tout son amour et son expertise pour que le film soit vu dans les meilleures conditions. Et je tenais à saluer aussi ben voilà, toutes ces personnes qui œuvrent derrière de façon totalement confidentielle et anonyme et le faire un petit coup de promo à ces personnes qui ben voilà, se décarcassent en salle de projo, que ce soit en salle à essai, en multiplex ou en festival. Ben merci à vous. Voilà.
Ouais, super, bah, merci pour ce témoignage. Ça vous a donné envie de venir l'année prochaine, ceux qui n'étaient pas là, outre je parle à Sophie Nicolas qui est là.
Qui
On en reparlera et on se retrouve l'année prochaine au FICA de Vesoul.